juste après le journal. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Toute l'info. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. En Équateur, le président sortant Daniel Noboa, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle, son opposante de gauche Luisa González ne reconnaît pas les résultats et réclame un recomptage des voix. Les détails avec notre correspondant à Quito, Eric Sanson. En Cisjordanie occupée, l'opération Mur de Fer, lancée par Israël, se poursuit. Après Jenin et Toulkarem, Naplouse est touchée. Les habitants des camps de réfugiés vivent dans l'angoisse. Amira Swilem s'est rendue sur place. La situation sécuritaire ne s'améliore pas en Haïti. L'exemple de Kenskoff dans ce journal. Cette commune du département de l'ouest du pays est sous contrôle des gangs armés ultra-violents, nous expliquera notre correspondant à Port-au-Prince, Peterson Luxama. Enfin, le prix Nobel de littérature hispano-péruvien Mario Vargas Llosa est décédé à Lima à l'âge de 89 ans. Il était considéré comme le dernier grand représentant de la littérature latino-américaine. Il avait également une grande passion pour la politique. En Équateur, le président sortant Daniel Noboa a donc été réélu hier avec près de 56% des suffrages à l'issue d'une journée sans incident, marquée par une participation record de plus de 84% des 13,7 millions électeurs équatoriens. Un résultat que son adversaire socialiste refuse de reconnaître. Les détails avec notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
La candidate socialiste Luisa González n'a pas attendu que la présidente du Conseil national électoral reconnaisse la victoire du président sortant pour demander que soient recomptés tous les bulletins. Elle conteste les résultats officiels.
Je veux être très clair et empathique. La révolution citoyenne a toujours reconnu la défaite lors de précédentes élections, lorsque les chiffres et les sondages le démontraient ainsi. Aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas les résultats.
Il faut dire que cette défaite par 11 points d'écart a surpris après un premier tour durant lequel Luisa González avait pratiquement fait jeu égal avec le président Daniel Noboa. Ce dernier, durant la campagne, a dramatisé le débat en accusant son adversaire de vouloir mettre fin à la dollarisation, plébiscitée par la population, et mis en avant son action résolue contre les cartels et les gangs qui ensanglantent le pays.
L'Équateur veut être différent. L'Équateur ne veut pas retourner au passé, mais aller de l'avant. Les Équatoriens veulent une vie meilleure et ont choisi un projet pour obtenir cette vie meilleure qu'ils recherchent tant.
Noboa souhaite réformer la Constitution pour permettre le retour de bases étrangères et a demandé l'aide de la communauté internationale contre les trafiquants de drogue. Eric Sanson, Quito, RFI.
Alors qu'Israël a annoncé il y a quelques jours étendre l'opération Mur de Fer dans le nord de la Cisjordanie occupée, l'inquiétude grandit sur place. Après Jenin et Toulkarem, une ville concentre désormais l'attention. Naplouse, bordée de plusieurs camps de réfugiés palestiniens. Le camp de Balata a été pris d'assaut la semaine dernière, faisant des dizaines de blessés. Dans ce contexte, les habitants d'un autre camp, celui d'Al Ain, à l'ouest de Naplouse, vivent dans l'angoisse d'être les prochains à vivre une incursion israélienne, une vie en suspens, comme a pu le remarquer Amira Swilem, qui s'est rendue sur place.
La vie semble suivre son cours dans le camp d'Al Ain, mais pour Hanan Ahmed, elle s'est arrêtée cette année. Un jour de janvier.
Là, je suis chez mes parents. Avant, j'habitais à Jenin, mais j'ai quitté ce camp après que l'armée israélienne a tué mon mari. Ils ont bombardé notre maison avec 2 missiles. Il y avait 6 personnes à l'intérieur. Elles sont toutes mortes. Tout cela, ce sont les conséquences de la colonisation et de la lutte armée. Tu marches tranquillement et tu peux te prendre un missile, que tu sois combattant ou pas. Tout le monde est menacé.
Déjà déplacée une première fois, cette mère de 3 enfants craint de l'être à nouveau, alors qu'Israël a annoncé étendre son opération. Cette éventualité est dans tous les esprits ici. Ibrahim Nemer est membre de l'association qui représente les réfugiés auprès des responsables palestiniens et d'antennes de l'ONU. Il aimerait que les autorités anticipent les risques.
On a bien vu ce qu'il s'est passé à Toulkarem, à Jenin, à Nour Shams, à Gaza. On est obligé d'en tirer des conclusions. Si les habitants de 80 ou 85 maisons du camp sont poussés au départ, il faudra bien les loger quelque part. Où vont-ils aller? Qui sera responsable de les reloger?
Alors que le camp abrite environ 9300 personnes, Ebrahim Nemer a d'ores et déjà conscience que tout plan de relogement ne pourra offrir qu'une bien précaire protection aux habitants du camp. Amira Suilem, de retour du camp de Laayn à Naplouse, RFI.
Nouvelle tension entre la France et l'Algérie, le ton remonte d'un cran entre les deux pays. Alger demande à 12 fonctionnaires français en poste en Algérie de quitter le territoire. Cette décision est une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Le ministre français des Affaires étrangères demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Jean-Noël Barrot indique aussi que si la décision de renvoyer ses agents était maintenue, alors la France répondra immédiatement. Le président chinois commence sa tournée en Asie du Sud-Est. Xi Jinping est arrivé au Vietnam. Il se rendra ensuite en Malaisie et au Cambodge. Le but est de renforcer les relations commerciales de Pékin en pleine guerre douanière avec Washington. Xi Jinping a, dès son arrivée, dénoncé le protectionnisme qui ne mène nulle part. Aucun gagnant ne peut émerger d'un tel conflit commercial, a-t-il dit. La situation sécuritaire ne s'améliore pas en Haïti et Kenskoff en est l'exemple. C'est une commune du département de l'Ouest, non loin de Port-au-Prince. La quasi-totalité des localités de Kenskoff sont toujours sous le contrôle des gangs armés de la coalition qui continuent à tuer, piller, kidnapper, incendier des maisons. C'était une fois de plus le cas ce week-end, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la localité de Godet. Des policiers ont été blessés. Correspondance depuis Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Depuis l'offensive des gangs armés en février dernier contre Kenskoff, la ville compte ses morts et ses blessés. Sur ces 2 derniers mois, 262 personnes ont été tuées et 66 autres blessées, selon un rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, publié la semaine dernière. Des violences d'une brutalité inouïe qui empêchent les habitants, vivant surtout de l'agriculture, de rejoindre les champs pour semer. Les conséquences pourraient être catastrophiques, selon Jean Massillon, maire de la ville.
Il y a un problème d'insécurité alimentaire qui menace Kenskoff. La commune risque aussi un important manque à gagner sur le plan économique, car elle vit essentiellement de l'agriculture. Actuellement, malgré les pluies, les habitants ne peuvent pas planter, ils ne peuvent pas semer d'oignons, de carottes, ni de poireaux. La situation est catastrophique.
Et face à ce tableau pour le moins accablant, le maire invite les autorités en place à agir vite afin d'éviter le pire dans cette commune, autrefois paisible, loin des actions des gangs armés.
Il faut qu'il y ait une action concertée entre tous les représentants de l'État et l'ensemble des instances gouvernementales afin de se pencher sur ce dossier en vue de trouver une solution à cette situation.
Et si rien n'est fait, la note risque d'être salée. C'est toute la capitale qui en payera le prix. Déjà assiégée par les gangs, elle risque de ne plus être approvisionnée en légumes, dont Kenskoff est l'un des principaux fournisseurs. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Le prix Nobel de littérature péruvien Mario Vargas Llosa s'est éteint cette nuit. C'était l'un des écrivains les plus importants de la littérature contemporaine. Toute langue confondue, conteur exceptionnel, il était aussi un homme politique, influent, opposition tranchée. Martin Chabal.
L'auteur de Conversations à la cathédrale ou de La ville et les chiens a conquis les lecteurs du monde entier en mêlant le témoignage, le documentaire et la créativité dans ses romans. C'était un grand admirateur des écrivains français comme Flaubert ou Sartre et son œuvre lui a permis d'être élu à l'Académie française en 2021. Au Pérou, il est candidat à l'élection présidentielle de 1990 où il échoue face à Alberto Fujimori, une défaite qui le marque beaucoup. Il a d'ailleurs une image très contrastée dans son pays natal. Il est le seul prix Nobel péruvien et a raconté une grande facette du pays, mais ses idées politiques récentes divisent. Soutien de Bolsonaro au Brésil, il se range aussi derrière José Antonio Kast au Chili en 2021, alors qu'il se revendique comme héritier de la dictature de Pinochet. Il est souvent critiqué pour s'être expatrié en Espagne et regarder le Pérou avec mépris. Sa phrase au début du roman Conversation à la cathédrale « À quel moment le Pérou s'est foutu en l'air » décrit bien sa vision pessimiste du pays que beaucoup de Péruviens lui reprochaient. Martin Chabal, Lima, RFI.
En Corée du Sud, ouverture du procès pénal du président destitué Yoon Suk-yeol. Au premier jour de l'audience, il nie avoir commis tout acte d'insurrection lors de sa tentative d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Destitué par la Cour constitutionnelle il y a 10 jours après avoir été suspendu de ses fonctions mi-décembre, il doit désormais s'expliquer au pénal malgré les très lourdes peines encourues. Il comparaît libre, sa détention provisoire ayant été annulée pour vice de procédure le 8 mars. Voilà. c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Priorité Santé. Bonjour, Caroline Paré.
Bonjour, Olivier.